Chaque jour, en France, près de 1 200 personnes apprennent qu'elles ont un cancer et parmi elles, 400 travaillent. Et 15% des actifs sont touchés par une maladie chronique. Ce n'est donc plus seulement une question de santé, mais bien une affaire de société qui impacte également la sphère professionnelle. Les conséquences de la maladie sont multiples, humaines, organisationnelles, économiques. Cancer et maladies chroniques sont donc souvent synonymes de difficultés et de coûts pour les personnes, pour l'entreprise et pour la société. L'inclusion de la maladie au travail par les entreprises s'inscrit de fait dans des enjeux plus larges de qualité de vie au travail et de responsabilité sociale d'entreprise. Le Club Cancératoire, qui est un réseau d'entreprises engagées, fondé en 2012 sur des valeurs d'innovation sociale et de partage. Incubateur de bonnes pratiques, l'association a créé une démarche collective à destination de tous les acteurs du monde du travail, malades, aidants proches, managers opérationnels, collègues, Service des ressources humaines et de santé au travail, et bien sûr, les dirigeants. Notre objectif, changer le regard de l'entreprise et de la société sur les malades pour qu'enfin la maladie soit synonyme de création de valeur. De la même manière que la maladie peut rendre une personne plus forte, elle peut rendre l'entreprise plus performante. Dans ce podcast, nous donnerons la parole à des acteurs engagés en faveur de cette cause pour illustrer nos actions et les avancées dans ce domaine. Et nous espérons que leurs expériences, leurs témoignages et bien souvent leur courage vous inspireront tout autant que nous. Et maintenant, bonne écoute! Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui, à l'occasion des 10 ans de l'association Cancer at Work, Nicolas Bouzou, économiste, qui va nous parler de son métier et de son expertise. Bonjour Nicolas et merci
Bonjour.
d'avoir accepté cet échange.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Pouvez-vous tout d'abord vous présenter et nous dire en quoi consiste votre métier?
Mon métier consiste à analyser l'économie, et à analyser la société de façon plus large, à identifier des problèmes et à proposer des solutions à des problèmes. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est ce que je fais quotidiennement. Alors après, ça prend plusieurs formes. J'ai des entreprises de conseil, par exemple, notamment une entreprise qui s'appelle Asterès, qui a travaillé justement avec l'association Cancer at Work. Mais bon, voilà, j'écris aussi.
Vous allez nous en dire plus justement.
Voilà, exactement. J'écris aussi évidemment des livres. J'en ai écrit. Là, je sors mon 16e livre dans quelques jours. Et puis, bien évidemment, je participe beaucoup au débat public, comme vous pouvez le voir.
Tout à fait. Et alors justement, quel est votre lien et votre engagement avec l'association Cancer at Work?
Alors, moi, ça fait très longtemps que je m'intéresse à la question du cancer sous l'angle économique. Et donc, j'avais mené, mais depuis une dizaine d'années, déjà pas mal de travaux là-dessus, et notamment sur le coût de l'innovation thérapeutique dans le domaine du cancer et comment est-ce qu'on pouvait concilier ce coût qui est de plus en plus élevé avec un accès qui soit complètement équitable des Français à ces thérapies, et notamment aux thérapies les plus innovantes. Donc, je connaissais pas trop mal la problématique du cancer, donc je m'étais déjà exprimé plusieurs fois là-dessus, sur ce sujet, et j'ai rencontré Anne-Sophie, qui donc dirigeait cette association Cancer at Work, qui m'a expliqué la problématique de l'association, qui est une problématique qui est un peu différente, hein, qui est celle de l'intégration économique et en particulier du maintien dans l'emploi des personnes qui souffrent de cancer. Et elle m'avait demandé si on pouvait objectiver économiquement les gains. Alors, les gains pour les travailleurs, mais aussi les gains pour l'assurance maladie et pour les entreprises, du maintien des gens qui souffrent d'un cancer en emploi. Donc, j'ai vraiment trouvé que cette problématique était passionnante. Elle est au cœur des choses qui m'intéressent, à la fois sur le fond, mais aussi dans la méthode qui consiste à essayer d'objectiver les choses. Et donc, voilà comment la rencontre s'est faite et voilà pourquoi on a commencé à travailler ensemble. Mais c'était intéressant parce que moi, j'avais pas vu, si vous voulez, les choses. Enfin, j'étais pas rentré, voilà, par ce chemin-là dans la question de l'économie du cancer.
Alors, est-ce que justement, vous pouvez m'expliquer en quoi a consisté l'étude économique que vous avez conjointement menée avec l'association en 2016-2017 et quelles en ont été les conclusions dans les grandes lignes?
Oui, alors en fait, ce qu'on a essayé de faire avec cette étude, comme je vous le disais, c'est essayer de comprendre s'il y avait un gain économique au maintien le plus possible dans l'emploi des personnes qui souffrent d'un cancer. Alors, on pense, mais là je vais sur un terrain qui n'est pas tout à fait le mien, mais on pense qu'il y a un gain thérapeutique, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est du domaine médical, donc moi, je n'ai pas à m'exprimer là-dessus, mais C'est un domaine dans lequel il y avait déjà des recherches. Donc je laisse ça de côté, c'est le plus important, hein, bien évidemment, mais nous, on s'est intéressé à cette partie moins importante, mais enfin qui compte quand même, du gain économique. C'est-à-dire, au fond, est-ce que quand on souffre d'un cancer, si on reste le plus possible en emploi, est-ce qu'on a un gain de pouvoir d'achat? Est-ce qu'il y a un gain financier pour la société sous forme d'économie pour l'assurance maladie? Et puis, est-ce qu'il y a un gain aussi pour les entreprises? Donc c'est ça le travail qu'on a fait, qui a été un travail qui a été fait, réalisé à la fois à partir d'études académiques qui ont été réalisées dans le monde et dont on a fait la synthèse, mais aussi, on a aussi travaillé avec des questionnaires, si vous voulez. C'est ça la force de l'association Cancer at Work, c'est que c'est aussi un réseau. Donc on a pu travailler avec des gens, interroger des entreprises. C'était Philippe Salle à l'époque le président, je me souviens. Donc on a pu travailler avec des entreprises et on a pu aussi travailler avec des personnes employées dans ces entreprises. Et donc pour répondre à votre question, oui, on a pu objectiver qu'il y avait un gain pour la société. En fait, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est pas du tout de dire quand on souffre d'un cancer, quand on est en chimiothérapie ou en radiothérapie, on doit travailler comme d'habitude. C'est pas possible. C'est pas ça. L'enjeu, c'est de dire ça doit pas être 0 ou 1, ça doit pas être noir ou blanc. C'est-à-dire que quand on souffre d'un cancer, on doit pas basculer dans un monde qui est complètement différent avec une sortie du travail, même si c'est une sortie temporaire. Voyez, il faut essayer d'aménager une zone grise. Et si on arrive à aménager cette zone grise, ça c'est ça l'enseignement d'études, eh bien tout le monde est gagnant.
Très bien, et c'est une bonne nouvelle. Alors, on est début 2022, qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez réalisé cette étude et est-ce qu'il y a de nouveaux enjeux qui sont apparus?
Ouais, je pense qu'il va y avoir de nouveaux enjeux. J'en vois deux. Alors, le premier enjeu, c'est que l'incidence du cancer a continué d'augmenter. Donc, je dirais que les enjeux sont toujours un peu de la même nature, mais ils sont devenus plus importants quantitativement. La deuxième chose, c'est que le Covid, bien évidemment, la Covid est passée par là et que on va quand même regarder l'impact que ça a pu avoir sur les personnes qui souffrent d'un cancer, notamment parce qu'il y a eu malheureusement des retards de soins. Et il y en a toujours aujourd'hui. Et donc, il faut voir comment ça, alors pour les actifs notamment, quel impact ça peut avoir sur la capacité à continuer de travailler dans les entreprises, parce que ça génère de l'anxiété, parce que ça a pu éventuellement générer des pertes de chance. Enfin, il faut regarder tout ça de très près. Donc, je pense que oui, les enjeux ont quand même, malgré tout, un peu évolué. Je crois qu'il faudra regarder ça.
Très bien. Et alors, vous l'avez mentionné, mais en quoi le maintien dans l'emploi est finalement un enjeu stratégique à l'inclusion de la maladie au travail?
Alors, en fait, c'est une question très très importante et sur laquelle on ne cessera, on n'aura jamais terminé de travailler, parce qu'il y a plusieurs aspects. Il y a des aspects financiers, j'en ai parlé. Il y a des aspects thérapeutiques, ça c'est le rôle des médecins et des scientifiques de travailler là-dessus. Mais il y a aussi un aspect, comme vous dites, managérial. Au fond, je reformule la question. Est-ce qu'une personne qui souffre d'un cancer peut apporter quelque chose de différent à une entreprise? Ah, et ça, c'est vraiment une question extrêmement profonde. Et nous, on pense que oui. Alors, je vais donner un exemple extrêmement concret. Dans les entreprises aujourd'hui, il y a trop de réunions, il y a trop de pertes de temps. Hein. Tous ceux qui travaillent en entreprise savent de quoi je veux parler.
Bien sûr.
Une personne qui souffre d'un cancer, elle a encore moins de temps que les autres à perdre parce qu'elle est un peu plus fatiguée, parce qu'elle a un traitement à suivre. Et donc, c'est peut-être celle qui va dire, non, mais écoutez, là, les amis, franchement, arrêtez, ça, on n'en a pas besoin, donc on ne le fait pas. Cette réunion-là, elle ne sert à rien. Ou moi, de toute façon, aujourd'hui, je suis un peu fatigué, donc je ne viens pas et ma présence n'est pas nécessaire. Voilà. Et le sujet de la réunion, soit il n'est pas important, soit on le traitera autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça, je pense que ça peut vraiment apporter un regard très intéressant sur l'organisation et le management de l'entreprise. Et ce que je vous dis n'est pas théorique, hein, parce que quand on avait fait l'étude, on avait interrogé des gens, donc on l'a vu. Vous voyez? Donc c'est
Bien
tangible.
sûr. Oui, c'est par la preuve que vous avez eu ces réponses.
Voilà, ouais, tout à fait, c'est ça.
Alors, pour vous, d'un point de vue économique, qu'est-ce qui permettrait de mieux concilier maladie et travail?
Oui, alors évidemment, il y a des éléments qui permettraient de mieux concilier la maladie et le travail. En fait, il faut qu'on arrive à ne pas mettre de frontières entre la maladie et le travail. En fait, il faut sortir de l'idée, en quelque sorte, d'un statut de la personne malade. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que dans ces domaines-là, et surtout dans le domaine des maladies chroniques comme le cancer, ou des maladies de longue durée comme le cancer, parce que heureusement, on en guérit, et de plus en plus souvent, définitivement. Mais malgré tout, ce n'est pas zéro ou un. Parce que les traitements sont des traitements qui durent assez longtemps. Même dans le meilleur des cas, malheureusement, les traitements durent plusieurs mois pour être complètement guéri. Et donc, il faut qu'on arrive à considérer qu'il y a une zone grise, c'est-à-dire que on doit être capable de faire totalement confiance aux personnes qui souffrent d'un cancer et on doit leur donner une immense flexibilité dans l'organisation de leur temps. Donc une immense flexibilité dans l'organisation de leur temps, c'est leur dire, bah écoute, tu viens quand tu veux. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Ou alors pour être un tout petit peu plus rigoureux, les jours où tu ne peux pas venir, parce que par exemple tu es trop fatigué, eh bien tu ne viens pas. Tu as juste à me le dire, mais tu ne viens pas. Mais voyez, il faut vraiment qu'on arrive à mettre en place les dispositifs les plus souples possibles. Je pense que c'est vraiment ça l'avenir.
Finalement, être à l'écoute de ses collaborateurs et de leurs besoins.
Alors, c'est tout à fait ça, mais j'ajouterais une autre notion qui est très importante et qui manque souvent dans les entreprises, c'est la notion de confiance, hein. Et la confiance se donne. Donc, en fait, on devrait d'ailleurs, en théorie, en tout cas, toujours travailler avec des gens en qui on a confiance. On devrait toujours travailler avec des gens pour qui on donne sa confiance. Mais une personne qui souffre d'un cancer, on doit, à tout le moins, c'est ce qu'on lui doit, lui donner. Le manager doit lui donner sa confiance. D'accord? Et lui donner sa confiance. Vous savez, confiance, l'étymologie, hein, c'est fides, c'est foi. Et on dit bien, je te fais confiance, je te donne ma confiance. Hein. Donc il s'agit bien de quelque chose qui est unilatéral. Et donc on doit faire confiance, on doit donner confiance le temps du traitement.
Et une confiance qui doit être d'ailleurs réciproque, parce que si le salarié a confiance en son employeur, il en parlera plus facilement et il abordera ses sujets plus
Oui, et puis ça peut être
librement.
intéressant pour tout le monde. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que pour parler le langage de l'entreprise, il y a un retour d'expérience de la personne sous traitement qui est aussi intéressante parce que ça donne, comme je vous le disais tout à l'heure, une vision un peu renouvelée de l'organisation. Donc c'est intéressant.
Tout à fait. Et alors, un peu plus généralement, dans les années à venir, quels seront d'après vous les grands enjeux économiques des entreprises?
Alors, il y aura deux enjeux économiques importants pour l'entreprise. Notamment, il y aura celui de la prévention, parce que même si on soigne de mieux en mieux les cancers et même si on en guérit de plus en plus, c'est quand même mieux de ne pas en avoir. Donc, et là, les entreprises, sans doute avec les complémentaires santé, avec les institutions de prévoyance, c'est surtout elles que je pense, ont vraiment des choses très importantes à faire dans le domaine des entreprises, hein, pour, par exemple, faire la promotion de l'activité physique. Enfin, moi, je crois beaucoup à ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, bon, on en a parlé, hein, c'est évidemment celui du management des personnes qui sont atteintes de cette pathologie. Et la troisième chose, alors là, je sors un peu du domaine de l'entreprise, mais c'est le financement des thérapies de pointe. C'est-à-dire qu'on a des thérapies de plus en plus spécialisées, de plus en plus ciblées, de plus en plus efficaces aussi, hein, je pense à l'immunothérapie, mais ça coûte cher. Et donc, il faut sanctuariser des budgets pour faire en sorte que bah, les gens malades dans notre pays continuent. C'est le cas aujourd'hui, hein, donc c'est formidable, mais il faut que ça continue d'avoir accès aux meilleurs soins sans quasiment rien débourser. En France, on arrive à peu près à le faire en matière de reste à charge. On est parmi les pays les plus performants au monde, mais il faut que ça continue dans un contexte où le coût des traitements va augmenter.
Et ça favorise une meilleure santé de l'entreprise sur du long terme.
Alors, et une meilleure santé de l'économie en règle générale, ça c'est quelque chose que je me tue à répéter depuis 2 ans, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre le sanitaire et l'économie. C'est pas vrai. On a beaucoup entendu ça malheureusement pendant la crise. Il faut faire des arbitrages, il faut privilégier l'économie sur le sanitaire ou le sanitaire sur l'économie. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Ça a été très bien démontré par de très grands chercheurs, notamment en France par Philippe Aguillon, hein, qui est au Collège de France. La santé et l'économie, ça va ensemble. Donc, quand les gens sont en bonne santé, bah, en fait, c'est plutôt bon pour l'économie. Et à l'inverse, on a besoin d'avoir une économie prospère pour investir en santé. Donc, ce sont vraiment deux domaines qui sont des domaines complémentaires et non pas substituables, l'économie et la santé.
Et merci pour ce message parce que finalement il est optimiste et on en a
Mais
besoin.
il est vrai
Alors
surtout.
pour terminer, ouais, il est vrai, mais tant mieux, tant mieux. Alors et pour terminer, donc Cancer at Work, l'association fêtera ses 10 ans en 2022. Quel message souhaitez-vous adresser aux entreprises qui hésiteraient encore à rejoindre le club?
Ah ben non, c'est très important. Il faut vraiment que toutes les entreprises adhèrent à Cancer at Work pour deux raisons. Parce que déjà, moi, je crois que les entreprises ont un rôle à jouer dans la société. Hein. Je crois beaucoup à l'entreprise citoyenne. Et donc, c'est vraiment une question, la question du cancer, qui est une question centrale et qui va l'être de plus en plus avec le vieillissement de la population et en même temps le fait que les actifs vont partir de plus en plus tard à la retraite. Donc, on va avoir de plus en plus de cancers, de gens qui souffrent de cancer dans les entreprises. Donc, c'est très important d'avoir cette sensibilité-là, d'aider Cancer at Work et en même temps de bénéficier de tout ce qu'apporte Cancer at Work. Donc, je dirais aux entreprises, d'une part, il faut que vous le fassiez parce que c'est bien et parce que c'est important, mais d'autre part, faites-le aussi pour vous parce que vous allez être confronté de plus en plus à des gens qui souffrent de cancer dans vos entreprises. Et donc, c'est très important que vous appreniez du retour d'expérience d'autres entreprises, mais aussi des salariés d'autres entreprises.
Et merci, ce sera le mot de la fin. Merci vraiment pour ce partage d'expertise et votre regard. C'était un épisode de l'association Cancer at Work. Merci à nos membres, nos partenaires et aux acteurs engagés à nos côtés qui font vivre le projet et œuvrent à l'inclusion de la maladie au travail. Vous pouvez nous retrouver sur le site cancerator.com et sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. La maladie touche le collectif de travail dans son ensemble. Favoriser l'inclusion de la maladie au travail, c'est donc améliorer la qualité de vie de tous les salariés. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et surtout, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rejoignez-nous!